Bonjour à tous et bienvenue à votre RC Mag, le libre cours de Radio Courtoisie. Aujourd'hui, c'est avec une immense joie et beaucoup de bonne humeur que je reçois une artiste québécoise qui fait souffler un vent de liberté et de rire sur la scène européenne, Amélie Paul, comédienne, chanteuse, podcasteuse, pourrait-on dire, créatrice des fameux bulletins La Vérité Brutale, naturopathe à 16 heures, et même finisseuse d'Iron Man 73. Ouais. Amélie est une artiste complète, authentique et résolument libre. Avec son premier one-man show, Le Fabuleux Destin d'Amélie Paul, elle est en pleine tournée européenne. Après avoir conquis la Suisse, elle arrive en France avec des dates très attendues, donc, dont Paris, donc à l'Apollo Théâtre le 5 mai, Aix-en-Provence, Thonon-les-Bains, Tours et bien d'autres encore. Connue pour son humour incisif, son franc-parler et sa capacité à dire tout avec le sourire, ce que beaucoup pensent tout bas, Amélie nous rappelle que l'on peut rester joyeux même dans un monde qui nous invite parfois à rester sage, inquiet et craintif. Eh bien Amélie, merci d'être avec nous et je suis vraiment ravi de vous accueillir sur Radio Courtoisie.
Merci beaucoup de l'invitation, c'est un honneur.
Ouais, mais écoutez, plaisir partagé. Vous êtes donc, comme je l'ai dit, québécoise, je crois qu'on l'a entendu, multi-casquette, comédienne, chanteuse, naturopathe, n'est-ce pas?
Oui, pas pratiquante, mais j'ai mon diplôme et tout.
C'est ça. Oui. Et puis j'ai rappelé aussi cette fameuse course Iron Man 73, Comment une artiste aussi touche-à-tout arrive-t-elle à tout concilier avec autant d'énergie et de joie? Et qu'est-ce qui vous anime au quotidien?
Je crois que j'ai une belle et grande naïveté qui fait que, bon, je me lance dans des défis qui semblent insurmontables, mais pour moi, je sais pas comment j'y arrive. J'y vais un jour à la fois, comme quand j'ai décidé de faire le Ironman notamment. Je crois que personne dans mon entourage croyait que j'y arriverais, même si je faisais beaucoup de courses, mais j'avais jamais fait de natation ou de vélo. Je me suis juste lancée là-dedans en me disant je vais y arriver. Et si j'y arrive, en tout cas, ça veut dire que je vais être capable de faire mon One Woman Show. C'est bizarre, je faisais un lien. C'était comme un premier défi insurmontable. Puis je me suis dit, si je suis capable de faire ça, je vais pouvoir. Parce que pour moi, faire un One Woman Show, ça se pouvait pas. Ça se fait pas que je puisse être sur scène pendant une heure et demie. Parce que je suis une fille quand même timide, c'est drôle. Et les gens n'y croient pas quand ils me voient sur scène. Je sais pas si c'est mon alter ego qui embarque. Mais pour moi, je peux dire que je suis très fière de la tournure des événements. Le spectacle se passe bien. Les gens sont contents. Ils se sentent remplis après avoir vu le spectacle. Et moi, ça se fait pas le sentiment d'accomplissement que je ressens. C'est formidable. Et je me dis, en fait, c'est la preuve qu'on peut tout accomplir si on décide d'y mettre la volonté, la discipline. Déjà, si on met la volonté, la discipline dans quelque chose, dans la vie, on est en avant de 95% des gens qui souvent, ils vont se décourager. Ils vont dire, c'est pas possible. Donc, juste de dire, oui, je peux tout accomplir. Je vais y aller. Je vais être disciplinée. Chaque jour, je vais faire un petit geste pour y arriver. T'es déjà en avant de 95% de la population.
Un défi en amène un autre.
Ben voilà, je pense qu'on peut tout accomplir. On est des créateurs et voilà, faut y croire. Ça a l'air cliché, mais c'est la vérité.
C'est la vérité. Voilà. Je parlais tout à l'heure donc de votre One Woman Show, Le Fabuleux Destin d'Amélie Paul, qui est en train de conquérir donc l'Europe. Donc vous avez joué à Toulouse, donc il y aura Paris, Aix-en-Provence, Thonon-les-Bains, Tours et la Suisse.
Oui.
Qu'est-ce que ce spectacle raconte de vous et de notre époque, et qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir quand vous êtes sur scène devant un public français ou suisse?
Bon, déjà, c'est un spectacle, c'est pas vraiment du stand-up, une phrase, un punch. Ouais. C'est complet, ça se tient du début à la fin et c'est déjà une critique des folies, des paradoxes de la société. Et c'est une réconciliation aussi, je crois que c'est le thème principal, une réconciliation en deux mondes divisés. Surtout, on le voit dans les 6 dernières années. Quel point les gens se sont divisés maintenant avec la guerre en Iran. Et tous les sujets, à chaque jour, il y a une nouvelle, un nouveau drame pour diviser les gens sur différents sujets. Alors, c'est vraiment justement pour essayer de réconcilier de prendre conscience que ben il y a des gens qui entretiennent cette peur, cette division-là, mm-hmm. et qu'on devrait s'élever au-dessus de ça. Mais c'est très drôle et très trash, mais juste pour dire qu'il y a un message profond derrière. Et j'aime beaucoup me moquer des gens qui... je ne sais pas comment les appeler, je ne veux pas manquer de respect, mais qu'on dit souvent les normies, les gens qui ne sont pas dans la dissidence. Donc, je vais me moquer des espèces de... des caricatures, des trucs typiques à cette catégorie de gens-là. Mais je vais me moquer aussi des gens plus de la droite, justement. Hein? Ligne droite, vraiment. Je vais me moquer de nous. Et voilà, je trouve que c'est réconciliateur dans ce sens-là parce qu'on se moque de tout le monde. Je me moque de moi-même. Je me moque un peu du wokisme, de différents sujets de des trucs que j'ai envie de dénoncer, de mettre en lumière et qu'on se lève au-dessus. Et je parle aussi un peu vers la fin du spectacle. Il y a un moment un peu plus émotionnel de mon histoire, ce que j'ai vécu, la culture de la cancellation au Québec notamment. Peut-être un peu encore ici, mais voilà. On vit beaucoup d'émotions. C'est une montagne russe d'émotions, ce spectacle. Mm-hmm. Et ce que je préfère, il y avait ça comme question, je crois, que ce que je préfère quand je suis sur scène... Ben, honnêtement, je découvre, parce que je fais de la scène depuis très longtemps, 25 ans peut-être, mais l'aspect de faire rire les gens, ça c'est magique, ça c'est exceptionnel, c'est un high incroyable. C'est pas incroyable, c'est croyable, c'est trop, très croyable, je le vis, mais oui, c'est beau et c'est élevant, puis c'est générateur de joie et... Ben, finalement, je l'ai déjà dit, mais je crois que ce qui va sauver le monde, c'est la joie, l'humour et le rire. Bien alors, bien. Ben moi, je suis en train de sauver le monde, là, quand même. C'est bien important. Bien. Si vous voulez sauver le monde, venez voir Le Fabuleux Destin d'Amélie Paul, parce que sinon, vous risquez de sombrer dans les ténèbres pour l'éternité, là. C'est sérieux, quand même.
Donc, j'espère que les auditeurs ont bien...
compris le message.
Compris le message. D'ailleurs, j'en profite... pour juste faire une petite pause, un petit message pour les auditeurs de Radio Courtoisie.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Et comme vous venez de l'entendre, chers auditeurs de Radio Courtoisie, hein, n'oubliez pas de vous rendre sur soutenir.rc.fr ou de nous envoyer un chèque au 61... Boulevard Murat, 75-016 Paris, car Radio Courtoisie a toujours, toujours besoin de vous.
Vous pouvez m'envoyer un chèque, moi aussi, si vous voulez.
Eh bien, vous me communiquerez votre adresse en fin d'émission, si vous voulez. En attendant, Amélie Paul, vous êtes connue pour vos bulletins, donc La Vérité Brutale, ces capsules humoristiques qui décryptent l'actualité avec un regard acéré et sans filtre. Dans un monde où l'on nous demande parfois de rester sage et inquiet, comment vous l'avez, c'est vous qui l'avez dit d'ailleurs récemment, hein, comment faites-vous pour garder ce ton à la fois drôle et libérateur?
C'est un commentaire que j'ai eu souvent dans les premières années de la pandémie, que je faisais des capsules d'humour, notamment La Vérité Brutale, et on me demandait comment tu fais pour rire de tout ça puis garder ta bonne humeur. Mais c'est une bonne question. En fait, je sais pas, moi, depuis le début, que je le prends avec naïveté et légèreté. Mm-hmm. Parce que je sens que, bon, on essaie justement de nous maintenir dans la peur et, comme je disais tout à l'heure, de tout le temps créer un nouveau drame. Oui, c'est ça, un climat de peur, de division et tout ça. Et puis, je sais pas, moi, je trouvais ça, je trouvais les médias, tout ce qu'on s'est rendu compte dans les dernières années, je trouvais ça absolument ridicule. Alors, je me suis dit, ben la meilleure façon de rester positif, c'est de se moquer. Et je pense que, justement, ça a eu un bon impact. Notamment, je crois que c'est peut-être pour ça que j'ai été cancellée et, on m'a diffamée et tout ça parce que... Et pourtant, je faisais juste de l'humour. C'était un petit peu ridicule, là. Mais l'humour... être dangereux parce que ça fait réfléchir, ça les fait rire, justement, ça les met dans une belle vibe, ça les fait réfléchir et ça, on veut surtout pas une population qui réfléchit.
Et ça s'est calmé à ce niveau-là?
Oui, oui, Aujourd'hui, il y a tellement de divisions, même au sein de la dissidence, que là, c'est au sein même de mon écosystème que je subis le plus d'attaques. Et on est très pris dans une chambre d'écho aussi, donc c'est comme si les gens de l'autre côté entendent peu parler de nous, ce que je trouve dommage, puisque justement, j'ai envie de créer une réconciliation. Et que les gens discutent entre eux, on n'est pas d'accord et c'est pas grave. C'est, je peux être ton ami, même si tu penses pas comme moi. Et je crois qu'ils commencent à avoir une petite ouverture, ce que je trouve positif, mais c'est pas assez significatif. Encore, j'aimerais toucher tout le monde et c'est pas le cas pour le moment. C'est plus des gens de la dissidence, mais je veux m'ouvrir à tous.
Et Amélie, vous parlez souvent de la nécessité de libérer nos opinions. Et de ne pas se laisser dicter sa réalité. Hein. Pour vous, artiste indépendant, qu'est-ce que la liberté de créer signifie en 2026 ? Et avez-vous des anecdotes de moments où votre humour a vraiment fait du bien à des gens qui se sentaient seuls dans leurs réflexions ?
Comment libérer la pensée, c'est ça, libérer la pensée ? Je parle souvent d'autorité intérieure. Mm-hmm. Bon, je crois que aujourd'hui, on est de plus en plus, on voit des changements, c'est radical et tout s'accélère et on passe de plus en plus vers une ère de la conscience. On était très dans l'intellect puis l'ère de l'intelligence, la culture, c'est important. Je crois que là, on s'en va vers l'ère de la conscience. C'est important de revenir de plus en plus à soi. On l'a constaté au début de la pandémie. Il y a des gens très intelligents, très éduqués, très cultivés qui ont embarqué dans le narratif. Puis on se disait, voyons, cette personne-là est tellement plus intelligente que moi, une éducation, et pourtant, elle ne semble pas comprendre comme moi, je comprends. Mm-hmm. Ce n'est pas une question d'intelligence ou de culture ou d'éducation. C'est une question justement d'autorité intérieure, de s'écouter, d'écouter notre intuition, d'écouter quand il y a une fausse note, qu'on se dit non, ça ne fonctionne pas. Et arrêter de se dire, non, moi, j'ai pas assez d'éducation, je vais écouter des autorités extérieures, des gens que j'admire, je vais aller écouter mon influenceur préféré pour voir ce qu'il en pense, puis là, je vais pouvoir penser comme lui. Non, écoutez-vous. Écoutez votre voix intérieure, surtout aujourd'hui, vous avez probablement... Vous êtes peut-être sur quelque chose, là.
Comme vous dites,
développez la pensée, votre pensée. Je crois que c'est important. N'ayez pas peur de votre pensée non plus. Je trouve ça dommage qu'aujourd'hui, on entende encore... Mais pourquoi tu te prononces là-dessus? T'es pas un expert en géopolitique. On entendait ça en 2020. Pourquoi tu parles des vaccins? T'es pas un médecin? J'entends le même truc, là. Donc, il faut faire attention aussi de pas reproduire ce qu'on dénonçait jadis, tu sais.
D'autocensure, quoi.
Oui! Si c'est dans le respect, exprime-la ton opinion. C'est pas pour démolir quelqu'un ou... Et bref, l'autre question, c'était
si vous aviez des anecdotes de moments où votre humour a vraiment fait du bien à des gens qui se sentaient seuls dans leurs réflexions. Oui.
Ben là, je l'expérimente beaucoup durant cette tournée parce que je prends le temps de rencontrer les gens après le spectacle. Donc, j'ai beaucoup de témoignages qui me disent ça m'a fait beaucoup de bien, justement. Pendant la pandémie, parce que j'étais seule. Et c'est difficile pour moi à comprendre parce que j'étais tellement entourée de gens qui pensaient comme moi. Pas nécessairement dans ma famille, mais vu que j'étais publique, ben je recevais beaucoup de messages, beaucoup d'appui. Mais des gens qui étaient terriblement seuls et ça me fait réaliser à quel point c'est important tout ce que les influenceurs, j'aime pas vraiment les appeler comme ça, mais les gens qui se prononçaient publiquement, c'est important ce qu'on a fait. Parce que les gens étaient rassurés de savoir, je suis pas seule à penser comme ça. Je suis pas fou. Justement, ce que je disais, mon intuition est pas complètement erronée. Je suis pas cinglée. Donc ça a fait plaisir aux gens. Et des beaux témoignages que j'ai aussi, ça me touche beaucoup quand des gens viennent me voir. Je te connaissais pas ou j'étais pas du tout dans ta ligne de pensée. Je suis venue voir ton spectacle et j'ai adoré. J'ai trouvé ça drôle ou ça m'a fait sentir bien. Juste de savoir que je peux...
C'est normal.
Ben oui. Juste savoir que je peux faire sentir des gens bien à travers mon humour, mon spectacle. Moi, je suis sur scène, puis il y a des gens qui m'écoutent, puis qui rient, puis qui passent du bon temps. Pour moi, c'est surréaliste. Je dois dire qu'il y a des gens qui viennent me voir en spectacle, qui paient un billet et tout ça. Moi, c'est magique, là.
Et vous avez, comme je l'ai rappelé, fait un Ironman 70.3, comme on dit. Je fais un peu le grand spécialiste alors que j'y connais rien.
C'est bien, si on précise pas 70.3, les gens sont fâchés.
Oui, je, voilà,
c'est un demi-Ironman.
C'est pour ça que je le précise. vous avez traversé des périodes plus difficiles aussi. Donc cette force physique et mentale, est-ce qu'elle nourrit aussi votre créativité? Et qu'est-ce qui vous aide à rester debout et joyeuse quand le monde autour semble parfois un peu lourd?
Moi, je carbure au défi, donc c'est pour ça que je m'étais lancé le défi complètement débile et j'avais pas le temps en plus. c'est ce qui est spectaculaire. Je me suis lancé le défi de faire le Ironman 70.3 pendant qu'on était dans l'écriture et l'apprentissage du spectacle. Et d'ailleurs, mon manager et co-auteur, je crois qu'il me trouvait un petit peu cinglé de faire ça. Et c'est un gros entraînement. T'as l'impression que tu fais juste ça de ta vie, t'entraîner, oui. Parce que c'est intense à tous les jours. Mais carburer au défi, ça t'aide justement à garder la tête hors de l'eau et rester passionné, discipliné, drivé, je dirais. Parce que tous les jours, t'as une motivation, uh-huh. te lever du lit. Je pense que les gens qui
avec
sont malheureux,
objectifs.
Ouais, les gens qui sont malheureux, je leur conseille, si je peux me permettre de donner des conseils,
oui.
Je leur conseillerais de trouver un défi, mm-hmm. De se raccrocher à un défi, puis quelque chose qui va les motiver à se lever le matin. C'est la base. Parce que si tu vis des années, tu fais un travail que t'aimes pas et tout, puis que tu te lèves tous les matins déprimé, c'est pas une vie. Donc, c'est sûr que tous les événements de l'actualité vont t'affecter. Ça va résonner avec toi. Ça va résonner avec cette tristesse, cette lourdeur. Mais si tu te lèves, t'as un beau projet ou t'aimes, ça peut être l'entraînement, ça peut être n'importe quoi, quelque chose qui te drive, qui te passionne. Tout le monde en a un. Des fois, c'est juste de se rappeler quand on était enfant, qu'est-ce qu'on aimait. Se rappeler la dernière fois que j'ai ressenti vraiment de la joie dans ma vie, c'était quand? Parfois, c'était « Ah oui, j'étais enfant, puis là, je jouais du piano. » Ben voilà, joue du piano aujourd'hui.
C'est pas juste.
Voilà, même si t'es pas très bon, joue aussi, ça te procure du bonheur. C'est souvent de se rappeler, ouais, la dernière fois que j'ai vraiment ressenti la joie et du bonheur, qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce que j'ai fait. Puis souvent, c'était quand on était enfant.
Ben oui.
Donc, qu'est-ce que vous faites? Moi, quand j'étais enfant, ben j'écrivais des histoires, puis je faisais semblant que je faisais des entrevues. J'ai une avoir comme une espèce de prise de compte. Je faisais semblant que j'étais en entrevue. Je répondais à des questions.
Eh bien, ça s'est concrétisé pour le coup.
Mais voilà, c'est magique. Je faisais des pièces de théâtre, puis je chantais, là. Je faisais semblant que... C'est drôle, j'ai jamais pensé que je ferais de l'humour, ça, parce que pour moi, c'était encore trop... surréaliste, je pourrais jamais faire ça. Et puis, voilà, aujourd'hui, je le fais. Parce que j'ai chanté durant des années et la partie qui m'angoissait, c'était entre les chansons de parler aux gens. Ça, ça m'angoissait totalement. J'étais tellement gênée.
Ce qui est complètement contradictoire avec ce que vous faites.
Voilà. Et donc, même ça, j'ai pu surpasser cette peur. Donc, je vous dis, si moi, je l'ai fait, tout est possible.
Et donc, Amélie Paul, vous venez du Québec et vous êtes aujourd'hui très proche aussi du public français et suisse. Hein. Qu'est-ce qui vous touche le plus dans la rencontre avec les auditeurs et spectateurs d'ici? Et y a-t-il des points communs ou des différences culturelles qui vous font sourire?
Je raconte ça, c'est drôle. Ben moi, j'adore la France, j'adore les Suisses, les Belges, j'adore l'Europe. C'est magnifique. En partant, nous, on est des petits ados en Amérique. Et puis ici, il y a tellement de culture, d'histoire. Les gens sont... au Québec aussi, c'est bienveillant. Je sais pas, mais tu sais, comme quand on dit « nul n'est prophète en ce pays », je crois que je l'expérimente un petit peu ici. Alors, c'est très agréable pour moi. Et comment dire les différences? Il y en a tellement, juste au niveau du langage. C'est drôle, on s'en venait tout à l'heure en métro, puis je parle à Nicolas Da Silva, mon manager.
Manager, hein?
Et puis, lui, il est habitué à... Ben, toi aussi, t'es habitué à mes québéquismes. Je parle québécois sans filtre avec lui parce qu'il comprend tout ce que je dis. Et puis là, j'ai dit, moi, je réalise que je te parle et tout, les gens me regardent. Parce qu'en fait, ils entendent l'accent québécois, ils sont pas habitués. Donc, ils trouvent ça, bon, peu importe, peut-être qu'ils disent c'est dégueulasse ou ils trouvent ça charmant, j'en sais rien. Mais ça, c'est un truc que j'oublie parfois. Et culturellement, c'est normalement que t'es arrivé. Puis je t'ai serré la main, je t'ai donné deux becs. Et Nicolas a dit, tu sais, culturellement, ici, ça se fait pas vraiment. On serre la main et puis on reste professionnel. Et il y a beaucoup le vouvoiement aussi qui est très important. Mm-hmm. Et au Québec, nous, on a le tutoiement très facile. Donc, c'est toujours, ouais, on peut se tutoyer parce que ça crée une proximité. Ça crée comme, je sais pas, pour moi, ça me rend plus à l'aise de te tutoyer. Le vouvoiement, j'ai l'impression que ça crée une barrière, mais bon, ça, c'est un truc culturel ici. Je sais pas, il y a un respect, une politesse à avoir et c'est merveilleux. J'aime ces différences culturelles dans les expressions. Il y a plein de petits trucs là, à quoi je pense pas pour le moment, mais ben, moi, je trouve ça charmant. J'aime être l'étrangère quelque part. J'ai beaucoup voyagé. Ça, c'est toujours quelque chose qui me plaît bien d'être l'extraterrestre dans la pièce. Moi, probablement, je me suis toujours sentie comme une extraterrestre, même chez moi. Bon, c'est normal. Enfin, j'ai toujours été le mouton noir ou la bizarre.
Chère Amélie, il nous reste 5 minutes. Si vous deviez lancer un message aux auditeurs de Radio Courtoisie, des gens, comme vous l'avez dit, qui aiment la culture, la liberté de penser et un peu de franc-parler, quel serait-il? Et peut-être, je ne sais pas, est-ce que vous auriez une petite surprise? Avez-vous une chanson, une punchline ou une anecdote légère à partager avec nous avant de partir en tournée?
Le message.
Vous avez le temps. Hein.
Comme j'ai dit... Le message, ça serait absolument de venir voir Le fabuleux destin d'Amélie Paul si vous avez envie de sauver le monde. Comme j'ai dit tout à l'heure, parce que ça pourrait être dangereux pour vous si vous venez pas.
Ça pourrait... Donc tous à l'Apollo Théâtre, puisque nous sommes à Paris.
Oui, exact. Et,
le 5 mai.
Tu devrais venir. On va t'inviter.
Avec grand plaisir.
Oui, t'aimerais?
Bien sûr.
Bon, on va régler ça après
l'émission. Une salle, je vais pas raconter ma vie, que je connais très bien. D'ailleurs.
En plus, t'es comédien, mais faut pas en parler, on raconte pas ta vie.
Voilà.
Mais tu vas peut-être apprécier. Oh, je pourrais peut-être te demander de venir sur scène avec moi.
En tout cas, oui, une salle qui est très agréable.
Mais c'est important de venir parce que tu sais, ça pourrait créer vraiment une rupture du continuum espace-temps. Donc, venez voir Le fabuleux destin d'Amélie Paul.
5 mai à Paris. Hein?
5 mai à Paris, exactement. Mais ameliepaul.com pour voir toutes les dates et prochainement, il va y avoir d'autres dates qui vont se rajouter. Et trêve de plaisanterie, ce que je dirais, ça revient un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure. Puis que, bon, c'est pas quelque chose que j'avais pensé discuter nécessairement, mais oui, revenez à vous. À votre autorité intérieure et rappelez-vous de... Je donne des ordres, faites tout ce que vous voulez, je dis ça comme ça.
Non, ce ne sont pas des ordres,
faites
ce sont des conseils.
Et faites ça! Mais oui, et peut-être faire un exercice de se rappeler qu'est-ce qui me passionnait quand j'étais enfant? Qu'est-ce que j'aimais faire? J'aimais faire des bricolages, j'aimais dessiner, j'aimais jouer... un instrument à musique ou peu importe, ça peut sauver le monde aussi.
Se raccrocher donc
à... Se raccrocher à ce qui nous passionne et se mettre des défis. Ça, on peut commencer. Je te dirais la première étape la plus simple, ça pourrait être de juste, tiens, je vais me remettre en forme. Ça peut tout changer. Juste de dire, je vais aller prendre une marche tous les jours ou je vais m'abonner au gym. Vous dites pas au gym, à la salle de sport.
En essayant d'y aller et de ne pas arrêter au bout d'une semaine, évidemment.
Oui, la discipline. Toujours garder en tête la discipline. Ça, c'est vraiment important. Et je répète, quand on a la discipline, la rigueur et la constance... vous êtes déjà en avance sur une grande partie de la population. Donc, ça serait peut-être ça que j'aurais envie de passer comme message. Puis, je souligne encore une fois, faites-vous confiance à votre autorité intérieure, de pas toujours tout le temps mettre notre pouvoir dans des gens à l'extérieur, des autorités extérieures qu'on admire puis qu'on s'imagine qui sont mieux, qui savent mieux que nous ce qui est bon pour nous. C'est quand même spectaculaire. Et c'était quoi la dernière question?
Bon, si vous aviez... il nous reste 1 minute, donc ça va être un peu... Je sais pas, une petite sur... je sais pas, une chanson, une punchline ou une anecdote légère.
Moi, je suis très timide. Hein? Donc, les chances que je me mette à chanter ici sont nulles. Mais vous pouvez aller voir sur mes réseaux sociaux, si vous voulez voir mes vidéoclips et tout ça, ou si vous voulez m'entendre chanter. Quand je vais revenir à la maison, je vais jouer dans un festival. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait un spectacle de musique. Et puis là, je vais me gâter. Je vais faire un spectacle rock. Mais je mets l'accent sur l'humour pour le moment. Peut-être qu'éventuellement, dans Le fabuleux destin d'Amélie Poel, je vais rajouter 2-3 chansons à la fin. Ça, j'aimerais bien.
Eh bien, Amélie Poel, ce sera malheureusement le mot de la fin.
C'est passé très vite. C'est très vite. Mon Dieu, ça a été comme 2 minutes. En bonne compagnie, c'est ça que ça fait.
Eh bien, écoutez, merci en tout cas du fond du cœur pour ce moment de pur bonheur et de vérité, Saint-Jacques, de liberté que vous venez de nous offrir. À travers votre humour décapant, vos vérités brutales et votre spectacle, donc je le rappelle, Le fabuleux destin d'Amélie Poel. Vous nous rappelez avec talent et légèreté qu'on peut rire pour ne pas pleurer et surtout pour rester libre. Donc que vous soyez sur scène, donc Toulouse est passé, mais en tout cas bientôt à Paris à l'Apollo Théâtre le 5 mai à Aix-en-Provence ou ailleurs en Europe, on vous souhaite une tournée triomphale.
Merci beaucoup.
Remplie de rires, de belles rencontres et de salles qui vibrent. Chers auditeurs, n'hésitez pas à aller découvrir, donc la découvrir sur scène, c'est un vrai bol d'air frais. Amélie, merci encore pour votre énergie communicative et votre franc-parler, je crois qu'on l'a bien deviné et compris.
Merci.
Si rafraîchissant, et on vous retrouve très vite.
On se voit le 5 mai.
Et on se voit le 5 mai, et on vous dit continuez à être vous-même surtout, avec merci. Ce sourire et cette joie qui font tant de bien. Chers auditeurs, n'oubliez pas de vous rendre sur soutenir.rc.fr ou de nous envoyer un chèque au 61 boulevard Murat 75016 Paris, car Radio Courtoisie a toujours besoin de vous. À mercredi prochain et bonne semaine.